supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Dimanche prochain, plus de 48 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes pour élire les 81 eurodéputés français pour ce 10e scrutin européen. Ils représentent 11,25% des 720 eurodéputés à élire en France. Et ils s'inscriront dans des groupes parlementaires européens, j'en avais parlé la semaine dernière. Et figurez-vous qu'on arrive quand même à 3078 candidats, répartis sur 38 listes. Un record pour la France, un record en France pour ce scrutin. En voyant les listes, en écoutant leurs paroles à travers les grands médias et les réseaux sociaux, on comprend bien que rien n'est réglé pour l'union de la gauche, qu'il reste le clivage droite-gauche dans de nombreux domaines, et il y a ceux qui veulent détricoter tout ce qui a été construit, imaginant que la désunion des 27 ferait la force de l'Europe. Oui, gardons nos pays souverains. Puis, ceux qui veulent continuer à y croire, aussi difficile et imparfaite soit-elle cette Europe, plus sensible aux problèmes sociétaux qu'à l'économie. Là, j'en suis moins sûre. On ne nous a jamais autant parlé des lobbies européens, au fait. L'arrière du décor, de certaines décisions. Alors je me suis servie d'un excellent article du Monde, publié le 23 mai 2019, donc là ça veut dire aller piocher Europe Archive, lors des dernières élections européennes. Un article donc de deux journalistes, Gary Dagorn et Stéphane Aurel. Voilà ce qui en sort. Et je trouve ça intéressant, pour ça que je vais vous le redire. Le registre commun de la Commission et du Parlement européen compte environ 11 800 organisations lobbying déclarées comme représentantes d'intérêts auprès des décideurs et fonctionnaires de l'Union européenne. L'organisation non gouvernementale Transparence Internationale, bon, le mot est en anglais parce que c'est... Voilà, Transparency International. Parce que l'anglais France, est véhiculé.
Même en France, ça s'appelle Transparency.
Comme pareil, voilà. Bon, mais moi, je voulais le dire à Transparence Internationale. Son vrai nom, c'est effectivement, tu as raison, Poupa, c'est Transparency International. Estime, quant à elle, à environ 26 500 le nombre des lobbyistes présents de façon régulière à Bruxelles. Cette dernière concentre ainsi le deuxième plus gros bataillon des lobbyistes du monde, après la capitale fédérale américaine, Washington. Mais c'est normal, figurez-vous. Il faut bien compter sur des experts, des avocats d'affaires, des associations industrielles, les trade associations, des consultants, les think tanks, laboratoires d'idées. Ah oui! Jamais neutre, mais toujours avec une pointe d'avance. Des comités scientifiques, bien sûr, des statisticiens, des toxicologues, des ingénieurs, et plus si besoin pour produire quoi ? Des études. Des études qui permettront d'entretenir quoi ? Le doute sur la dangerosité des produits face à des velléités réglementaires pour l'Europe. Comme, je pose une question, comme le glyphosate, tu crois, hein ?
Bien sûr, c'est bien sûr. Un très bon exemple.
Voilà.
Le glyphosate qui est classé par les autorités médicales comme probablement cancérigène. Il n'est pas cancérigène, mais probablement cancérigène, mais qui, quand même, l'Europe a traîné des... Et avec cette trahison du camp Macron, qui avait annoncé qu'il voterait contre, et enfin...
Et finalement, on l'a reporté.
Voilà, mais
parce
on
que,
a
vous
reporté.
Savez, à petite dose, finalement, c'est pas si mauvais que ça, apparemment.
Voilà.
Hein, c'est ça. Bon.
C'était, je sais plus à qui on avait fait le coup, un des défenseurs du glyphosate. Il y a un journaliste qui lui avait présenté un verre avec d'eau avec du glyphosate dedans et qui lui a dit, puisque c'est pas dangereux, vous allez le boire. Ouais.
Eh bien non, je pense.
Non.
Bon, leur cible préférentielle à tous ces lobbyistes, eh bien les fonctionnaires de la Commission européenne, puisque c'est cette dernière qui détient le pouvoir de l'initiative législative. Malgré tout, ils ont des commissaires européens. Il y a du monde qui travaille pour l'Europe.
Mais je vais t'arrêter parce que c'est cet article date de 2019, mais depuis ça a été réglementé le lobbying en Europe.
Oui, ça a été réglementé, mais il y a encore...
Non, c'est-à-dire qu'il faut être... les lobbyistes sont obligés de se déclarer et toute rencontre entre un député ou un commissaire européen avec les lobbyistes doit être déclarée aussi. C'est-à-dire qu'on peut tracer maintenant.
Il faut passer par une voie hiérarchique, en tous les cas. Oui. L'influence a beau être opaque, les méthodes employées par les professionnels de la persuasion sont, elles, bien connues et, effectivement, légales et légiférées maintenant. Tu as raison. Ben voyons, les propositions d'amendements qui choquent tant l'opinion publique sont le pain quotidien au Parlement. Et elles sont même rédigées par les représentants de ces intérêts commerciaux. Voilà, donc maintenant c'est légiféré et du coup, ça permet de faire quand même encore peut-être, et pour certaines choses, du grand n'importe quoi, mais c'est légiféré.
Mais l'occasion de cette campagne m'a permis de découvrir une chose, c'est que les députés européens, contrairement aux députés nationaux, ne peuvent pas présenter de projet de loi.
Non, ils sont dans leur commission.
C'est-à-dire qu'ils font une proposition à la Commission européenne.
À la Commission.
Et c'est la Commission européenne qui, oui ou non, soumet cette loi au vote.
C'est bien ce que je dis, c'est bien la Commission européenne qui a le pouvoir.
C'est le Conseil des ministres, en fait. C'est l'équivalent pour en France, on dirait les députés, c'est les députés. Mais la Commission européenne, c'est les ministres. Et le Premier ministre, c'est la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
La pratique de lobbying au quotidien est plus bureaucratique qu'on ne l'imagine, car il faut avoir une parfaite connaissance donc des procédures législatives, mais aussi des rouages de l'administration européenne. Alors, merci messieurs pour ce bon article, parce que je pensais qu'il fallait que j'en parle quand même. Mais je peux aller plus loin. Alors, je voulais vous parler encore de quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'eurobaromètre. Tu connaissais pas l'eurobaromètre ? Alors, c'est le baromètre qui va servir à mieux cerner les citoyens européens à travers des décisions. À savoir, sur l'Europe, c'est quand même important, eh bien cet instrument de sondage officiel utilisé par les institutions et les agences de l'Union européenne pour suivre régulièrement l'état de l'opinion publique. Quand même, un petit peu, c'est quand même important, et sur les sujets de nature politique ou sociale. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai cherché dans l'eurobaromètre. Donc, je vous jure, vous pouvez aller à toute l'Europe, mais vous pouvez aussi aller voir, comme je vous disais, europa.eu. Donc, ces deux sites-là, si vous voulez en savoir un peu plus avant d'aller voter. Eh bien, je vais vous citer un exemple, la 100e enquête de l'eurobaromètre standard. Alors, ça veut dire eurobaromètre standard, ça veut dire qu'il y a des eurobaromètres qui restent en interne et qui ne sont pas diffusés. Publié donc le 13 décembre 2023, montre que dans toute l'Europe, 7 citoyens sur 10, c'est-à-dire environ 70% de la population européenne, estiment que l'Union européenne est un havre de stabilité dans un monde en crise. Alors je ne sais pas comment était tournée la question pour ce sondage. Il faut dire qu'ils prennent 1000 Européens donc, dans chaque pays et ils arrivent à évaluer et faire un sondage avec ça, Donc, 44% des Européens ont une image positive de l'Union européenne, tandis que 38% d'entre eux ont une image neutre, 38%, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idée, d'avis sur l'Europe, et une image négative que 18%.
Ils n'ont pas interrogé Jean Lassalle, alors?
Non. Moi, j'aimerais vous poser la question, elle est où l'image de ceux qui s'en foutent ? Je reprends ce que disait.
Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça.
Voilà.
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Jean Lassalle a fait... Il y a eu un débat hier soir.
Hier soir, oui.
Oui, il y a eu le grand débat avec les grandes listes et le grand débat avec les petites listes.
En deuxième temps, donc voilà. À un horaire assez tardif quand même. Dommage.
Et Jean Lassalle, avec son accent, a dit que de toute façon, c'était les dernières élections européennes, puisque l'Europe tout le monde s'en fout. Voilà.
Bref, chers Français et chères Françaises, combien serez-vous à aller voter le 9 juin, puisque la question européenne est plutôt positive ? Nous verrons bien les pourcentages et l'abstention dimanche soir.
Alors, ça m'amuse, puisque lors de ce débat, et ce matin encore, le candidat du Rassemblement National. du Rassemblement National répète à qui veut l'entendre que seuls 3% des Français ont une image favorable de l'Union Européenne.
C'est, voilà.
Donc ils n'ont pas les mêmes sources, à mon avis.
Bah, si vous allez voir l'Eurobaromètre, alors là, vous savez, les réponses...
très intéressant, parce que je suis allé voir.
Ah oui, t'as été voir,
et
là.
Et tout,
je suis suivi,
tout,
vous savez.
Toutes les choses de l'Eurobaromètre sont en anglais.
Ah oui, c'est vrai.
Il n'y a rien en français. C'est,
Et pourtant, celui qui a mis ça en place... Hein, c'est un mec qui vient des sondages français, Jacques-René Rabier. Et il a mis en place cet eurobaromètre en 73.
Et jusqu'en 2021, il y avait un site en anglais et en français. Et depuis 2022, bah, c'est plus qu'en anglais. Tout le site de l'eurobaromètre est en anglais.
C'est pour ça que, tu vois, je voulais dire la transparence en français... Mais c'est vrai, il faut défendre aussi notre langue, hein, quand même, notre langue française, même si, bien sûr, on a bien compris que c'était l'anglais qui se véhiculait, ou qui véhiculait les informations
européennes. Pour avoir eu la chance d'être invité, quelle honte, je suis un traître à la cause, par la Commission européenne à Bruxelles, j'ai donc été dans... ça ne parle qu'anglais,
anglais.
Et c'est assez amusant parce que vous voyez deux Français qui parlent entre eux, ils parlent en anglais.
Mmh. Ah oui. Mais parce qu'il y en a aussi qui ont l'oreillette qui traduit.
Ah non, mais après, oui,
bien sûr. Bon.
Alors d'ailleurs, il y a une ribambelle de vitres pour les traducteurs simultanés, parce que c'est traduit dans toutes les langues.
Oui, pour ça, c'est assez intéressant.
Voilà.
Sûrement bien à visiter. Hein. Bon allez, je vous laisse avec un petit extrait que Poupa nous a dégoté. Mégalopolis d'Herbert Pagani. Qui apparemment est un extrait d'une petite comédie...
Non, pas une petite, une grande comédie musicale
que je découvre.
Qui a été faite en 72 et qui était vraiment visionnaire, comme vous allez pouvoir l'entendre dans l'extrait qui va suivre.
Et puis ça va nous détendre un petit peu.
Chers téléspectateurs, bonjour. C'est pour moi un immense plaisir... Une troublante émotion et un grand honneur de vous annoncer que nous allons suivre, en direct du grand stadium de Mégalopolis, l'allocution de Monsieur Maxime Van der Love, notre bien-aimé président, directeur général des États-Unis d'Europe. Et n'oubliez pas que cette émission vous est offerte par...
Mégacola ! Mégacola ! Mégacola !
Les jeunes ont soif de présidence, les présidents ont soif de jeunesse, alors ils boivent !
Mégacola,
c'est bon, Mégacola.
C'est bon, c'est mieux.
Comme notre président, Mégacola.
Consommatrice, consommateur, dois-je vous remercier pour votre soutien chaleureux et massif? Un président qui vient d'être réélu ne remercie pas. Il justifie votre confiance par des actes et un programme. Cette Europe, dont la responsabilité pèse sur mes épaules, se trouve à un tournant. D'aucuns prétendent que nos routes, nos télécommunications, nos espaces de cultivation accélérés, nos coupoles d'existence expérimentale traversent une crise. Une crise ? Mais bien sûr ! Et la plus saine que l'on puisse imaginer. Une crise de croissance. Et quel est le père qui ne se réjouit pas de voir grandir ses enfants ? Grandir et prospérer. Mon gouvernement a su résoudre l'équation. À chacun la consommation qui lui échoit, selon la production qui lui incombe. Oui, chers citoyens consommateurs, l'avenir vous sourit comme je vous souris en ce moment.
Elles sont d'un blanc stupéfiant, ahurissant, époustouflant, c'est parce qu'ils l'utilisent.
PDG, PDG,
la pâte dentaire.
dentifrice gouvernemental. Faites comme notre président, utilisez vous aussi PDG, la pâte dentifrice gouvernementale. Du dent si blanche, c'est un scandale.
PDG.
Les scandales? Quel scandale? Parlons-en des scandales. C'en est fini de ces promoteurs de désordre qui prétendent collectiviser les espaces libres au détriment de l'initiative individuelle. Enfin, chacun sait qu'un espace libre est libre. Et s'il est libre, il est à vendre. Il faut arracher les espaces improductifs à cette conception rétrograde de l'esthétisme écologique d'une collectivité marginale que nous saurons briser jusque dans ses structures les plus secrètes. Nous forcerons groupes, syndicats et partis à respirer selon nos normes politiques. Et notre gouvernement est en mesure de vous promettre pour demain un abaissement conséquent de l'ordre de 15% sur la taxe de la consommation de l'air potable.
Respirez en couleur.
Fini les vieux masques à gaz de papa. Les nouveaux masques à gaz Colibri sont sortis. Si léger, si petit. À rayures, à carreaux, à fleurs.
Respirez en couleur.
Allez vite les essayer. Ils sont en vente dans tous les mégalopolis prix. Avec les masques à gaz Colibri, vous aurez un de ces succès dans les embouteillages.
Super, ces extraits donc de Mégalopolis. Je ne sais pas si on peut écouter sur Internet.
Je pense que sur les plateformes de streaming.
Cet extrait en entier, parce qu'il était un peu trop long pour la radio, mais Herbert Pagani, Mégalopolis, vous pouvez peut-être sans doute le retrouver sur YouTube. Et je pense que ça vaut le coup, parce que c'était quand même bien comme je le voulais. Revenons sur ce qui nous intéresse pour dimanche. Justement. Mais peut-être le savez-vous déjà. Pour qui allez-vous voter? Un choix conséquent s'offre à nous, avec ces 38 listes, on est bien d'accord. Nous avons du choix. Alors que s'est-il passé depuis les deux décennies qui nous séparent du référendum de 2005? Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur à la fin de 2009, il a étendu les pouvoirs du Parlement européen dans les divers domaines législatifs. Ce qui a laissé une plus grande responsabilité des institutions européennes. Il a introduit des mécanismes de coopération renforcée dans le domaine de la politique de sécurité et de défense, on l'a vu avec l'Ukraine. Il a renforcé les mécanismes de coordination économique et budgétaire au sein de la zone euro. Là, c'est ce qui nous met à mal dans notre système de soins, et pas que. Car le mécanisme européen de stabilité nous demande de faire sans arrêt des économies et provoque ces fameuses crises d'austérité pour répondre au système économique européen, comme une sorte de planification où tous les pays membres doivent s'exécuter. Quand parlerons-nous alors d'une véritable fiscalité, et surtout pour certaines grosses entreprises qui mettent à mal les services publics des pays membres et bénéficient encore aujourd'hui d'une concurrence fiscale et de paradis fiscaux, et payent même pas leurs impôts, hein, ni même en France. Le dialogue entre les opinions des États membres est complexe, pas facile à concilier. Les intérêts nationaux peuvent entrer en conflit avec les objectifs communs de l'Union européenne. Plus économique qu'humaine. Elle doit trouver un équilibre entre la souveraineté des États membres et l'intégration continentale, c'est-à-dire de rapprocher démocratiquement les pays européens sur les plans économiques, politiques et sociaux. Une sorte de résilience dans le but de promouvoir la paix, la prospérité, la solidarité sur le continent européen. D'ailleurs, je me permets de reprendre quelques propos dans un discours d'André Bellon, le président de notre association, lors de son intervention à la Sorbonne, à l'invitation de la revue Recherche internationale. Il dit « C'est Pierre Mendès France, figure de la gauche française, qui aura marqué l'histoire de la 4e République. » Il légitime son vote hostile au traité de Rome en déclarant « L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique. Car, au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, nationale et internationale. Pierre Mendès France fait ainsi, dès 1957, le lien entre la conception économique et commerciale du marché commun européen et une vision de la société qui attaque les principes mêmes de la démocratie. Il marque ainsi la différence entre les États membres où existe un peuple, des citoyens, et l'Union européenne, où alors ces concepts se diluent. Il faut bien voir que, jusqu'aux années 1970, la question démocratique n'était pas évoquée dans la construction européenne. Puis, devant l'accroissement de pouvoir de la Commission de Bruxelles, la question est devenue prégnante, menant à la création du Parlement européen. Je remarquerai, dit toujours André Bellon, dans ce cadre, l'emploi abusif du concept de déficit démocratique pour l'Europe. Comme si, même face à cette question, on se sentait obligé d'employer un terme économique comptable. Le mot « déficit », on est bien d'accord. Alors, dire que la question de la démocratie dans l'Union européenne n'est évoquée, depuis lors, que par des procédures et non par ses acteurs naturels, c'est-à-dire les citoyens, le peuple, je rajoute les peuples, peut certes choquer, et il n'en est pas moins réel. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, qu'en pensez-vous? Vous posez-vous toutes ces questions? Lisez-vous les programmes proposés par les 8 grands partis politiques et les 30 petites listes? On peut remarquer que certaines sont davantage connues dans leur engagement et leur forte conviction. Est-ce qu'elles n'auraient pas pu s'entendre avec d'autres têtes de liste de partis politiques pour qu'ils se positionnent clairement sur tous les sujets qui nous touchent directement, nous, citoyens, dans notre quotidien? L'inflation, la précarité de beaucoup de concitoyens aujourd'hui, la guerre, l'agriculture, la sauvegarde de notre environnement, le RIC, la cause animale, et j'en passe. Si elles essaient de se montrer lors de ces élections européennes, c'est qu'elles n'ont pas eu à un moment donné les moyens d'être entendues, ni en France, ni même en Europe, et peut-être ni par vous. Mais pourquoi on n'écoute pas? Pourquoi on n'entend pas les eurocitoyens? Autre exemple, la colère des agriculteurs, elle n'est pas retombée, loin de là, puisque lundi, il y avait un blocage dans les Pyrénées, des deux côtés, hein, espagnol et français. Là, on ne nous en a pas beaucoup reparlé, hein, d'ailleurs. Hein. Pour faire entendre une fois de plus leurs revendications, alors j'ai essayé de voir les revendications, parce qu'il y a eu des choses quand même qui se sont tranchées avec...
C'est éminemment européen, leurs revendications. C'est-à-dire voilà. Qu'ils veulent les mêmes normes dans tous les pays d'Europe.
Alors qu'en France, on a acquis certaines choses, mais pas non plus de façon très juste, parce qu'il y a encore un syndicat très fort qui n'est pas tourné du même côté.
Bah, on parlait de lobbyistes, hein, voilà.
En voilà, sacré. Un bon qu'il est bon, celui-là. Et finalement, eh ben voilà. Donc j'ai essayé de revoir un peu. Les propositions faites en France et en Europe aussi ne répondent toujours pas à leurs demandes. Comme par exemple, alors au niveau européen, l'annulation de la taxe du gazole non routier. Alors là, ils ne prennent pas en compte, si vous voulez, l'augmentation non plus du carburant actuellement. Donc, c'est sûr que pour eux, ça va faire un grand décalage. Les prêts de trésorerie, surtout essentiellement en France, hein, parce que je n'ai pas vu que c'était en Europe. Hein. Les prêts de trésorerie qui ne concerneront que 20 000 agriculteurs, vous vous rendez compte? Soit 5% seulement des agriculteurs français seraient aidés. Donc c'est très peu. La mise en place d'une agriculture sans paysannes et paysans est en marche. Et
bah,
c'est pas
sûr,
moi qui le dis.
Puisque les aides de la PAC, c'est l'aide à l'hectare, ce qu'on appelle l'aide à l'hectare. C'est-à-dire que plus votre exploitation est grande, plus vous touchez de PAC.
Voilà.
Donc évidemment.
Et ça, c'est au niveau européen, pareil.
Voilà, c'est pour tous les pays pareil, ça.
Voilà.
Et c'est-à-dire que, bah, évidemment, c'est pour promouvoir l'agro-industrie.
L'agro-industrie.
Quoi.
Et figurez-vous que le président de la FNSEA, qui ne s'en cache même pas, ou même plus, il demande un plan de cessation d'activité pour les agriculteurs en difficulté. Vous vous rendez compte ? Si l'Assemblée nationale s'est prononcée le 28 mai dernier, donc c'est pas vieux, en faveur du monde agricole avec la Confédération paysanne et la FADER, ils dénoncent, la Confédération paysanne, et eux deux, je crois, dénoncent dans leur pétition que l'ensemble des dispositions proposées vont affaiblir la préservation de l'environnement et ne permettront pas de relever les défis face au changement climatique. Ah, le changement climatique ! Il n'a pas eu une place prépondérante sur toutes les listes. Hein. Et ça, c'est dans plusieurs listes, et des grandes listes aussi. Hein. Donc, retour du glyphosate, bien sûr. Hein. Alors, on va mettre des dates butoirs sur beaucoup de réutilisation aussi de pesticides et remise en cause, bien sûr, du pacte vert. Allez voir le site de France Nature Environnement pour vous éclairer sur l'écologie, l'utilisation des produits avec les listes. Et le retour de ces listes, ces 38 listes, hein, leurs réponses. Je pense que c'est assez intéressant. Alors, je vous donne le site fne.asso.fr/actualité/le 9 juin, choisissez-l-europe-que-vous-voulez.
Tapez FNE, l'Europe que vous voulez, dans un moteur
le
de
9
recherche.
Juin.
Dans, non, mais même l'Europe que vous voulez, FNE, oui. L'Europe que vous voulez dans un moteur de recherche, et vous tomberez directement sur la page.
Bon, merci Poupa, c'est vrai que je m'applique à donner tous les petits sigles, et puis voilà. Bon, hein. L'Europe, en France, est devenue une question franco-française. Et nous sommes même en train de jouer, pour moi j'estime, la partie d'un scrutin parfaitement français. Une forme de seconde élection législative dont le thème serait les questions européennes. Est-ce que tu es d'accord avec moi ?
Oui, oui.
Bon. D'où ?
Et j'ai testé, hein, vous tapez FNE, l'Europe que vous voulez, et vous tombez directement
sur...
La première réponse, c'est le 9 juin, choisissez l'Europe que vous voulez.
Voilà, allez, choisissez l'Europe que vous voulez avec ce site.
Il y a même un test de connaissance.
Très bien, voilà. Écoutez, je trouve que ça vaut le coup, hein. Donc je continue. D'où la place importante, puisque nous en sommes là, avec cette question franco-française et qui tourne donc un peu, je trouve, un peu même au pugilat, dans certains cas. D'où la place importante que prennent les deux têtes de l'exécutif. Donc le président Macron, qui je crois va bientôt prendre la parole, le premier ministre Attal, beaucoup trop présents à eux deux dans la campagne européenne.
Il fait même taire sa candidate et il intervient en plein direct pour la faire taire et parler à
là,
sa place.
Là, ça y est qu'en France hein, qu'on voit ça aussi. Hein.
Manspreading, on appelle ça en français.
Parle français. Sans compter la place qu'on laisse prendre de l'extrême droite. Et comment pourrions-nous laisser notre avenir entre les mains d'un Bardella ? Le jeune premier des Le Pen ? C'est quand même la stratégie tricolore. Pauvre de nous, comme le disait mon père, si le Front National de Le Pen est un parti comme un autre un jour ou l'autre, ma fille, dis-toi bien que c'est la France qui va mal. Dommage papa, nous y sommes. Je reprends le discours de notre président, donc de l'association pour une constituante. Il dit « Nous sommes aujourd'hui devant un tournant historique ». Dans ce type d'événement, on sait généralement qu'un monde s'écroule et qu'on ignore plus ou moins vers où l'histoire nous convie. La classe dirigeante, à l'inverse aujourd'hui, a décidé que rien ne doit changer, qu'elle sait que sa construction européenne est bonne et même qu'elle doit être renforcée. Pour ce faire, fière de sa supériorité et de ce bon droit, elle cherche à éliminer un acteur gênant. C'est qui ? Le peuple. Considérant qu'il ne comprend rien. C'est sans doute cela le sens de l'invention du mot « populisme », terme insultant destiné à légitimer un projet à rebours de l'histoire. Une démocratie sans peuple. Si c'est cela le projet, les événements nous appellent à faire face et devraient nous pousser à lire les programmes, et aller voter. Car en 5 ans, il peut s'en passer des choses. Dans tous les cas, je me serais donné du mal pour vous en parler, chers auditeurs, chères auditrices. Gardons nos valeurs et notre pouvoir de citoyen, au moins jusqu'au 9 juin. Je vais conclure sur ça. Bon dimanche d'élection. Et avant de vous quitter, j'avais donc un livre à vous proposer. Un livre qui s'appelle « Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l'extrême droite » de Félicien Faury, qui est sorti récemment, au mois de mai 2024, aux éditions du Seuil. Alors, juste, je vous fais un petit résumé que j'ai pris parce que je ne l'ai pas lu, mais rien que le résumé est quand même intéressant. Ils sont artisans, employés, pompiers, commerçants, retraités. Ils ont un statut stable, disent n'être pas à plaindre, même si les fins de mois peuvent être difficiles et l'avenir incertain. Et lorsqu'ils votent, c'est pour le Rassemblement national. De 2016 à 2022, d'un scrutin présidentiel à l'autre, le sociologue Félicien Faury est allé à leur rencontre dans le Sud-Est. Alors, le Sud-Est de la France, berceau historique, bien sûr, de l'extrême droite française. Il a cherché à comprendre comment ces électeurs se représentent le monde social, leur territoire, leur voisinage, les inégalités économiques, l'action des services publics, la politique. Il donne aussi à voir la place centrale qu'occupe le racisme, sous ses diverses formes, dans leurs choix électoraux. Le vote RN se révèle ici fondé sur un sens commun, constitué de normes majoritaires perçues comme menacées. Vous sentez-vous menacé, chers auditeurs, chères auditrices ? Et qu'il s'agit donc de défendre, à travers des portraits et récits incarnés, cette enquête de terrain éclaire de façon inédite comment les idées d'extrême droite se diffusent au quotidien. Signal d'alarme, danger. Vous sentez-vous concerné ? Félicien Faury donc, est sociologue, politiste, chercheur postdoctoral au CESDIP, Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Je crois que j'ai tout dit, tout ce que j'ai pu. Il y avait sans doute beaucoup de choses à dire, mais vous avez beaucoup de choses à aller voir, à aller lire sur les différents sites que j'ai cités lors des 2 dernières chroniques. Et je voulais remercier aussi toute l'équipe parisienne de notre association La PUC, déjà qui m'aide par leurs réflexions, et tout particulièrement Anne-Cécile Robert, journaliste, que j'avais dit au monde, mais non, c'est au monde diplomatique, c'est complètement différent, au monde diplomatique, et que je remercie tout particulièrement aujourd'hui pour ses articles éclairants, puisqu'elle est aussi spécialiste sur les questions européennes. Allez, je vous souhaite un bon dimanche d'élection et je vous dis à la semaine prochaine.
On met un petit morceau de musique pour finir.
Ah, le petit morceau de musique, excusez-moi, avec les grandes bouches, l'européenne.
Derrière les autos, feu rouge, elle se glisse avec sa bouteille d'eau et son torchon. Comme une pro de la pub, elle esquisse d'un trait sur la vitre un cœur en savon. On lui a dit, tu es européenne, c'était si beau qu'elle a pu le croire. C'était pas vrai et c'est pas de peine, il y a des rêves qu'il faudrait pas voir. Même si on sait qu'il y a plus gras que soi, même si on sait les salauds qui prospèrent, on baisse les yeux devant celle qui a moins que nous, on attend le feu vert. On lui a dit, tu es européenne, c'était si beau un nouvel été. On a menti et c'est pas de peine, il y a des rêves qu'il faudrait pas donner. disparu d'un coup d'essuie-glace du carrefour où une autre a pris sa place. C'est qu'elle a dû à laver des pare-brises, faire fortune au pays de la libre entreprise. Et c'est pour ça que tous les soirs elle arpente les trottoirs sous les clins de l'enseigne luminescente d'une station éléphant bleu. On lui a dit tu es européenne, c'était si beau qu'elle a pu le croire. C'était pas vrai et c'est pas de peine, il y a des rêves qu'il faudrait pas voir. On lui a dit tu es européenne, c'était si beau un nouvel été. On a menti et c'est pas de peine, il y a des rêves qu'il faudrait pas donner.